Pourquoi parler de Thomas Wilkes aujourd'hui? Ce n'est pas l'anniversaire de sa mort, puisqu'il est mort en 1623. La raison en est plutôt que c'est un génie, à la fois un homme de son temps, une personnalité singulière, une personnalité complexe, dont l'œuvre foisonnante et polymorphe a été injustement oubliée pendant longtemps, avant d'être récemment revenu en grâce, malheureusement sous forme très lacunaire. Un Plutarque des temps modernes ferait sans doute le parallèle entre Thomas Wilkes, notre homme du jour, et son contemporain, le poète John Donne, né en 1572 et mort en 1631, autre grande figure complexe et originale, longtemps oubliée et redécouverte tardivement, et dont l'œuvre suscita étonnement et admiration, qu'il s'agisse de ses sermons ou de sa poésie au style dit « métaphysique », un terme difficile à traduire, qui juxtapose donc des idées très éloignées, voire opposées, et conduisant à des rapprochements inattendus, au paradoxe, dont le plus célèbre d'entre eux, « Pour qui sonne le glas », a servi de titre à un roman de Hemingway. Fantasque, inouï, imaginatif, extraordinaire, autant de traductions imparfaites de ce style qu'on appelle en anglais « fantastical », et qui sont les épithètes qui correspondent également à l'œuvre de Thomas Wilkes. Tous deux, Wilkes et Donne, sont auteurs d'œuvres profanes et d'œuvres sacrées tout aussi remarquables. Tous deux ont eu des vies pleines de bifurcations, de rebondissements, de vicissitudes, mais dont les trajectoires semblent plutôt inverses à la fin de leur vie, puisque l'un finit comme doyen de la cathédrale Saint-Paul, en 1621, après avoir connu la prison, tandis que l'autre, après un début très prometteur, meurt dans l'opprobre et la misère, à Londres également. Thomas Wilkes naît donc en 1576 et meurt en 1623. 1623, c'est la même année où William Byrd, son grand prédécesseur, meurt également. La vie de Wilkes est une tragédie. Après un début brillant, une publication de 3 livres de madrigaux entre 1597 et 1600, l'attribution d'un grade de l'université d'Oxford, celui de bachelier de musique, un mariage qu'on pourrait qualifier de beau mariage, un début de carrière apparemment impeccable à la cathédrale de Chichester, il est, à partir de 1608, de plus en plus fréquemment mention de ses excès, absentéisme, boisson, querelle, blasphème. On peut expliquer ses réactions probablement à la désillusion, à la frustration, d'être dans une région très provinciale et sans doute dans des conditions de travail assez médiocres. Dès lors, remontrances et blâmes se succèdent jusqu'à son renvoi définitif en 1617. Il faut dire que la cathédrale de Chichester, où il est à la fois organiste et maître de chapelle, n'a rien qui puisse satisfaire ses ambitions musicales. Quand il y prend ses fonctions, par exemple, l'orgue n'est pas fonctionnel et le chœur est réduit à mi-effectif, ce qui rend probablement incapable l'exécution de ses anthems les plus ambitieux à 5, 6 ou 7 voix. Il est mentionné en 1608 dans ses airs ou Esprit fantastique, Airs of Fantastic Spirits, sa dernière publication, le titre de Gentleman of the Chapel Royal, gentilhomme de la chapelle royale. Ce titre n'est attesté par aucune autre source. Il a probablement été simplement gentilhomme extraordinaire. C'est une distinction qui était conférée aux musiciens de la cathédrale qui rendaient des services occasionnels à l'institution musicale de cour. Ce lien avec la couronne explique en partie que Wilkes vit principalement à Londres après son licenciement de 1617. Et il y meurt d'ailleurs, un an après sa femme, dans la pauvreté, chez un ami londonien dont le nom est tout de même un peu particulier pour un alcoolique, puisque cet ami s'appelait Henry Drinkwater. C'était l'ami de Thomas Morley, le contemporain de Tompkins, d'Orlando Gibbons, mais c'était de l'aveu général le plus audacieux, le plus avant-gardiste des madrigalistes anglais, qui fut également l'auteur le plus prolifique de services, ainsi que de nombreux anthems, anciennes, à la facture certes conforme à la tradition anglaise dans le style de Bird, mais comme on le verra, faisant usage de procédés madrigalesques dans son écriture. Wilkes est, de tous ses contemporains, celui qui a le plus marqué la musique de l'église anglicane. En effet, des pièces comme When David Heard, que nous écouterons dans un instant, ou O Mortal Man, ou encore Hosanna to the Son of David, sont des standards du répertoire de l'église anglicane. La question qui va animer cette présentation, c'est celle de sa personnalité musicale. C'est un génie anglais, certes, mais qui est inscrit dans la vogue italienne, qui regarde d'un côté l'Italie de Marenzio, via son mentor Morley, qui a importé cette musique en Angleterre, et de l'autre, il regarde vers la tradition anglaise qui est incarnée par William Byrd. Cette œuvre polymorphe participe donc-t-elle d'une seule écriture musicale ou de deux styles bien différents? Car la renommée de Wilkes dans le cadre de la musique anglaise est due à part égale à ses madrigaux, publiés dans la première partie de sa vie, et à sa musique sacrée dont on ne sait pas la chronologie. Si l'écriture de sa musique sacrée est certes plus conservatrice, moins exubérante que celle des madrigaux, elle fait néanmoins preuve d'audace et d'originalité, qu'il s'agisse de différentes techniques sur lesquelles je ne m'apesantirai pas, le contrepoint, le chromatisme, les variations rythmiques, les modulations, ou les effets, ou bien les effets de chœur qui sont semblables à ceux de l'école vénitienne où dialoguaient deux ou plusieurs chœurs. Toute son œuvre est marquée par l'imagination, l'innovation, les audaces rythmiques, les audaces harmoniques ou encore les audaces contrapuntiques, sans parler de son utilisation très personnelle de ce qu'on appelle la fausse relation, c'est-à-dire la juxtaposition d'une tierce mineure et d'une tierce majeure dans le même accord. 12 pièces choisies dans un programme récemment interprété par les Sorbonne Scholars vont ainsi évoquer 3 genres musicaux et donc 3 lieux. Une cathédrale, celle de Chichester, ou peut-être celle de la chapelle royale, la maisonnée d'un protecteur, probablement aristocrate, et la taverne. 3 lieux, 3 répertoires, mais combien de styles? Premier lieu donc, la cathédrale de Chichester. C'est là que sont exécutées des pièces qu'on appelle anthems, mais également des services, le service anglican. Sur les 10 services et la 40aine d'anthems écrits par Wilkes, ne survivent que 3 services et 25 anthems, soit complets, soit assez complets pour être reconstitués. La musique des anthems, notamment, a survécu dans des livres d'orgue, et non pas dans des partitions pour chœur. Et l'édition de ces anthems a fait l'objet d'une réévaluation complète à partir des années 1960, car elle était jusque-là presque totalement ignoré. Nous allons écouter dans un instant la deuxième partie du 6e service, celui qui est écrit in verse, c'est-à-dire avec des parties solistes, et pour 2 contre-ténors. Le Magnificat et le Nunc Dimittis, ce sont les 2 pièces qui composent le service anglican, sont chantées à la prière du soir, qu'on appelle Evensong. Il se trouve que ce sont des musiciens catholiques, Thales et Byrd, qui ont inauguré ce genre. Et pendant la période Tudor, ou la période Stuart, puisque Wilkes a vécu les dernières années du règne d'Elizabeth et les premières années du règne de Jacques Ier, ces services étaient divisés en 3 catégories. Ce qu'on appelait le service court, bref, qui était écrit à 4 voix et sans accompagnement, des versions plus sophistiquées comme le verse anthems avec des alternances de voix de solistes et des voix de chœur, et puis le great service, celui de Byrd est le plus célèbre d'entre eux, qui était réservé pour des occasions un peu exceptionnelles. Voici donc la deuxième partie du 6e service de Thomas Wilkes.
Lord, the Lord is of thy servant in peace, the cause.
Les anthems de Wilkes sont écrits dans des styles très variés. Celui de ses prédécesseurs comme Byrd, bien sûr, mais aussi des procédés d'écriture plutôt proches du madrigal, avec une attention minutieuse portée au texte, et notamment dans ce qu'on appelle le figuralisme, qu'on appelle en anglais le word painting, qui décrit de manière mélodique le sens du mot qui est mis en musique. Mais également par des effets de contrepoint très savants, par du chromatisme, c'est-à-dire l'utilisation du demi-ton pour exprimer des tensions ou un pathos, et puis évidemment aussi cette observation très scrupuleuse de la métrique et de la dynamique du texte. Les deux cas les plus brillants de ces anthems qu'on décrit comme full, c'est-à-dire écrits pour chœur mais sans intervention de soliste, sont deux pièces, Hosanna to the Son of David, et le Gloria in Excelsis Deo. Ils sont deux pièces couramment utilisées maintenant dans la liturgie anglicane. à mi-chemin entre l'anthems, dont l'utilisation est liturgique, et le madrigal, qui est à utilisation privée ou domestique, deux pièces singulières mettent en musique un texte biblique qui n'est pourtant jamais utilisé dans la liturgie anglicane. Il s'agit de Old Jonathan, qui déplore la mort d'un frère, et When David Heard, qui déplore la mort d'un fils. When David Heard met en musique la lamentation, le chagrin du roi David sur la mort de son fils Absalom au cours d'un conflit qui les oppose. Les versets de Samuel 18, rare exemple de déploration dans la Bible, ont déjà été utilisés dans le passé par Josquin des Prés autour des années 1540, par Nicolas Gombert, et le seront d'ailleurs bien après Wilkes, par Heinrich Schütz, par exemple, qui écrit une magnifique pièce pour basse, basse continue et un ensemble de trombones. Ces pièces sont généralement associées à la mort d'un prince. En Angleterre, Wilkes et 12 autres compositeurs mettent ce texte en musique dans un laps de temps très resserré, entre 1612 et 1618. Il s'agit de John Ward, Michael East, Thomas Tomkins et d'autres. Cet essor soudain du texte peut s'expliquer par la mort du prince Henry en 1612 et également par la manière dont on représente fréquemment le roi Jacques Ier dans l'iconographie, mais également dans cette mythologie que la poésie et le masque de cour véhiculent. On le représente fréquemment comme un personnage de la mythologie ou un personnage biblique. On sait d'autre part que père et fils, Jacques et Henry, entretenaient des cours séparées, voire hostiles, ayant des options radicalement différentes en matière de politique extérieure, et qui opposaient donc un père plutôt pacifiste, Jacques, et un fils plutôt belliciste, souvent représenté sous les traits d'un chevalier armé. Comme plusieurs de ces anthems, When David Heard a été conservé dans une source non liturgique. Il est donc probable que la pièce n'a pas été écrite pour l'Église. Les phrases interrompues à la fin de la pièce sont d'ailleurs les plus émouvantes du répertoire de l'époque, que Tomkins reprend dans sa propre composition, en particulier pour l'exclamation initiale du « O » que nous allons entendre. C'est probablement le texte, le traitement de texte biblique le plus émouvant écrit à ce jour sur cette partie du livre de Samuel. On y observera les croisements de voix et le chromatisme qui conduisent à des cris de douleur assez poignants. Thank you. La sixième pièce que nous allons écouter, Death has deprived me, la mort m'a privé de mon ami, est curieusement située à la fin d'un ouvrage consacré à des chansons à trois voix et des chansons de taverne. Mais ça n'est pas extraordinaire, il est arrivé plusieurs fois que des musiciens incluent à la fin d'un recueil de chansons une élégie sur, la plupart du temps, un de leurs confrères. Cette élégie, donc, est écrite pour commémorer la mort de Morley, Thomas Morley, mort en 1602, et dont on sait les liens qu'il entretenait avec Wilkes. C'est Morley qui a invité Wilkes, par exemple, à participer à son anthologie de 1601. C'est Morley qui a fait connaître à Wilkes des Gastoldi et Marenzio, que Wilkes n'a pas connu directement. Donc, Morley et Wilkes ont tous deux partie liée. On ne sait pas si Wilkes a été le disciple de Morley, en tout cas, il a été très fortement influencé par celui-ci. Aussi, cet hommage est d'une charge émotive très grande, et elle est également très originale. Par le figuralisme, le dessin de la mélodie sur le texte, et aussi par une curieuse coïncidence lexicale sur le mot « grave ». Vous allez entendre que sur ce mot qui signifie la tombe, mais qui signifie également grave, les voix de basse descendent dans des profondeurs abyssales sur des ré graves, et la musique s'interrompt à ce moment-là. Il y a donc manifestement jeu sur les mots en même temps que figuralisme. Cet accord final de la descente est d'ailleurs un accord de ré majeur, ce qui peut paraître curieux pour une déploration. Une autre originalité de cet anthem, c'est la façon dont se succèdent, en canon très proche, à six voix, de la basse au-dessus, l'expression « jusqu'à la fin du monde ». Cette technique était essentiellement dramatique, voire théâtrale, et évidemment madrigalesque. Elle n'appartient pas au registre de la musique sacrée. La pièce se termine donc de manière abrupte, comme pour exprimer un coup du destin. Par la variété des effets, par le dialogue des voix, par sa théâtralité même, par les effets sensationnels, les contrastes, mais aussi par le silence, les suspens, et par l'intensité dramatique, cette pièce, par son écriture, bien qu'il s'agisse d'un anthem, ressortit évidemment davantage du madrigal. Le madrigal, quant à lui, appartient à la sphère domestique. Sa vogue est de courte durée en Angleterre, puisqu'elle s'achève autour des années 1640. Le madrigal n'est d'ailleurs pas du goût de tous. Thomas Campion, grand musicien, grand poète et même grand poéticien, objecte à l'esthétique du madrigal, et un peu plus tard, en 1667, Samuel Pepys, fin observateur de la réalité londonienne, écrit « Singing with many voices is not singing, but a sort of instrumental music. » Chanter à plusieurs voix, ce n'est pas du chant, c'est une sorte de musique instrumentale, dit-il. Au contraire de l'air qui lui est monodique et qui est accompagné aux luttes, ou de la chanson anglaise qui est homophonique, avec des voix qui se déplacent simultanément, le madrigal est essentiellement polyphonique. La poésie sur laquelle il est écrit et qu'il inspire vient essentiellement de Pétrarque. Mélancolie amoureuse, larmoyante, parfois morbide, une expression outrée, hyperbolique, des souffrances de l'amant, des figures de style très sophistiquées qui, en anglais, prendront le nom de conceits. Des métaphores rapprochant des objets très éloignés par une argumentation souvent ténue et même paradoxale. Le terme, d'ailleurs, n'arrive en anglais que tardivement, apparemment en 1594. Et c'est Morley qui l'introduit. Shakespeare aussi, un peu plus tard, en 1997, dans Les Joyeuses Commères de Windsor. Le recueil de Bird, publié en 1588, et qui comprenait des madrigaux, s'intitule « Psaumes, sonnets et chansons de tristesse et de piété », donc ne mentionnez pas le titre de madrigal. Qu'est-ce donc que ce madrigal ? Sur le continent, c'est l'équivalent profane du motet sacré qui suit au plus près un texte poétique de structure très variable. Genre sophistiqué, destiné à un public aristocratique, à des interprètes d'un bon niveau. En Angleterre, à partir de 1588, donc, le madrigal apparaît sous forme imprimée. 1588, il faut rappeler, c'est l'année de l'invincible armada qui a été repoussée. On peut donc peut-être s'approcher des pays catholiques. Bref, c'est une simple supputation. Le fait est que Musica Transalpina, le volume qui est publié en 1588, rassemble principalement des versions anglicisées, le titre parle de « Englished », de textes italiens qui sont en général des textes assez simples, même s'ils sont expressifs, des vers légers, comme on dirait. Le propre du madrigal, c'est de traiter sérieusement sur le plan musical des textes qui sont légers sur le plan thématique. Et l'attention qui est portée au texte. Les madrigalistes anglais ne mettent pas en musique de la grande poésie, comme les auteurs de l'air, comme John Dowland par exemple, mais plutôt des vers teintés de trivialité, voire d'érotisme, et souvent d'ailleurs des traductions de madrigaux italiens. N'oublions pas qu'il y a une tête de pont du madrigal italien en Angleterre, c'est Ferrabosco, qui vit en Angleterre entre 1562 et 1578, et qui est à domicile l'ambassadeur du madrigal italien. Gastoldi aussi. Ses chansons à danser, les balletti, sont assez simples à exécuter et qui sont régulièrement ponctuées de falla. On verra que dans l'une des pièces que nous allons présenter, eh bien, ces falla prennent une dimension tout à fait particulière et distanciée chez Wills. Donc l'association d'une musique élaborée d'un texte simple, c'est l'exploit accompli par les Morley, Wills ou Wilby. Des vers courts, volubiles, formats variés, la thématique amoureuse souvent très conventionnelle, marquée par des contrastes, des paradoxes, et où le motif des larmes et de la douleur amoureuse s'entend, est récurrent. L'école du madrigal anglais donc atteint son fait avec deux auteurs majeurs, deux compositeurs contemporains, Wills et Wilby. Tous deux, en fait, sont terriblement redevables à Thomas Morley. C'est entre 1598 et 1600 que Wills publie ses deux livres de madrigaux, et c'est avec la pièce « As Vesta Wars from Latmus Hill » qu'il contribue à une anthologie de madrigaux réunie par Morley sous le titre « The Triumphs of Oriana », les triomphes d'Oriane, publié en 1601. Ces madrigaux à 5 et 6 voix, notamment le volume de 1600, contiennent une innovation. Il précise dans son titre que cette musique est susceptible d'être interprétée par un consort de viol. Et c'est la première fois qu'on trouve cet intitulé « Apt for Viols ». Wills a donc un sens très particulier du madrigal, très personnel, aussi bien dans ses compositions, l'art de la composition, le figuralisme, l'organisation rythmique, etc., que dans la manière de traiter son texte. Il est, parmi ses contemporains, celui qui explore le plus audacieusement l'expérience humaine, et donc la douleur, aussi bien que la dépression, ou des formes de mélancolie les plus sombres. C'est d'ailleurs une de ses pièces que nous pensons, et il s'agit d'une « O care, hands care ». On est très loin de l'amour selon Pétrarque. Ici, le chromatisme issu des Italiens est utilisé à des fins tout à fait personnelles, propres, singulières. Et cette pièce « O care » est une sorte de chef-d'œuvre de l'art mélancolique qui est celui des années 1600 en Angleterre. Je parlais il y a un instant d'une collection de madrigaux établie par Thomas Morley en l'hommage de la reine Élisabeth, alors âgée de 67 ans. Cette idée vient d'Italie, et de Venise plus précisément, où était paru le triomphe de Dori, une jeune épouse charmante, sans doute, d'un riche Vénitien. Publiée en 1592, cette collection comprenait 29 compositions émanant de 29 poètes et musiciens. Or, Morley, n'ayant pas réussi à rassembler 29 compositeurs, on remarquera d'ailleurs que dans sa collection ne figurent pas les noms de William Byrd ou de Farnaby, qui étaient des madrigalistes pourtant connus de l'époque, Morley donc ne rassemble que 22 personnes, dont beaucoup d'inconnus. Mais Wills fait partie de ces auteurs que Morley a essayé de rassembler. On imagine que cette collection de madrigaux a été rassemblée pour une fête de mai, un triomphe. En 1601, il faut reconnaître que la cour est morose. On vient d'exécuter le comte d'Essex, l'ancien favori de la reine, et il est possible que cette collection arrive à point nommé pour distraire la cour, et peut-être aussi pour consoler la reine.
Together, we live.
Un autre madrigal très connu de Wills, aux résonances très contemporaines, c'est ce Too Late, The Period of Cosmography, qui fait partie de sa collection de 16 sons. Il s'agit d'un madrigal très descriptif qui évoque les voyages lointains des grands navigateurs anglais comme Walter Raleigh ou Sir Francis Drake, mais également les récits qui sont faits par Richard Acloit dans ses collections. L'engouement contemporain pour l'exploration des terres nouvelles, la sensibilité à l'étrange altérité du monde, l'enthousiasme croissant pour les globes terrestres, car c'est bien du côté de chez Wilkes que le globe de Molineux apparaît, par exemple, chez le duc de Northumberland, n'est-ce pas, son château de Petworth. Bref, un faisceau d'éléments et d'événements contemporains ne peut pas relever de la coïncidence. D'abord, le terme de cosmography. On pense bien sûr à l'ouvrage de 1597 édité par Kepler qui s'intitule Mysterium Cosmographicum. Il ne s'agit pas à proprement parler de cartographie, mais il s'agit quand même de la représentation du monde et de l'univers. Peu de temps après, c'est Emery Molineux, celui qui fabrique des globes en Angleterre, qui meurt certes aux Pays-Bas, mais il a résidé en Angleterre, et on sait qu'un de ces globes se trouve à Petworth, près de Chichester. Ce globe servait essentiellement pour la navigation, mais il servait également à établir des cartes. Et c'est notamment le cas d'une de ces cartes, celle qu'on appelle la carte de Wright et Molineux, que Shakespeare évoque dans La Nuit des Rois en 1600. Il fait dire à Maria, la servante, à propos de Malvolio, le puritain, « Son sourire marque tant son visage qu'il se couvre de plus de lignes qu'il n'y en a sur la nouvelle carte qui s'étend jusqu'aux Indes. » Il s'agit à l'évidence de cette nouvelle carte de Wright Molineux. Et quand on pense qu'en 1599, c'est-à-dire juste une année avant la publication des madrigaux de Wilkes, la troupe de Shakespeare, la troupe du Chambellan, érige un théâtre qui s'appelle le théâtre du Globe. Il n'y a donc pas de coïncidence, il y a un engouement pour le Globe, la géographie des terres lointaines, les voyages exotiques. Ce madrigal, donc, célèbre le voyage. Mais le madrigal n'est-il pas lui-même un genre du voyage, lui qui vient d'Italie via la France et les Flandres, qui prend sa source d'ailleurs très lointaine dans la pastorale et l'idylle de la mythologie classique et qui est diffusée en Angleterre par des musiciens italiens comme Ferrabosco. Sans parler de la traduction, qui est elle-même une sorte de voyage, puisque ces madrigaux sont décrits comme « Englished ». En architecture, en peinture, en musique et en poésie, c'est l'Italie qui donne le ton, y compris en Angleterre. La première strophe de ce poème, qui commence par « Too Late », évoque le monde du Grand Nord, le monde glacial, les limites extrêmes des territoires cartographiés, l'Islande, « Too Late », et les phénomènes extrêmes de ces latitudes. On compare l'Hekla, qui est un volcan islandais qui connut une éruption assez durable en 1597, à celui de l'Etna de Sicile. La deuxième strophe, celle que nous allons écouter, évoque plutôt le monde du Sud, les échanges intercontinentaux, la cochenille de Chine, les poissons volants des mers tropicales, les volcans de la Terre de Feu. À moins qu'il ne s'agisse d'un volcan, le Fogo, qui faisait éruption depuis les années 1500 au Cap-Vert. Bref, ce texte est extrême, extrêmement difficile aussi à interpréter, avec des croisements de voix acrobatiques, des chromatismes ébouriffés, mais le comble de l'étrangeté n'est pas dans les merveilles du monde, aussi distant soit-il. Plus que les phénomènes du monde physique, les volcans, les poissons volants et le reste, c'est le moi qui les observe, qui est l'objet du plus grand étonnement. Le texte dit « more wondrous I », avec un rejet significatif du pronom personnel « I ». Il y a certes des merveilles dans le monde, mais c'est le moi qui les visite qui est bien plus étonnant encore. Cette formule est répétée d'une strophe à l'autre. Il est amplifié par le rejet donc, de ce pronom personnel en fin de cadence. Et s'il s'agit d'un lieu commun de la pensée occidentale de Sophocle à Shakespeare, il est exprimé ici par une métaphore très lointaine, un conceit, celui de la cartographie. Et cette juxtaposition d'idées très lointaines, ajoutée à l'intention, cette émotion très intense, fait émerger le moi narcissique dans un contexte déroutant, celui du voyage. Ce sont autant d'éléments de l'Ars Poetica de son contemporain John Donne que j'ai déjà évoqué. La cosmographie extrême confine ainsi à une cartographie du moi. Dans le même volume de 1600, des madrigaux à 5 et 6 voix, aptes pour les viols et les voix, Wilkes utilise un genre qui est celui du balletto. Le balletto, c'est une chanson à danser qui a été mise à la mode par Gastoldi et importée en Angleterre par Thomas Morley, son ami. Or, le choix du véhicule, le genre du ballet, et le choix du thème sont diamétralement opposés. C'est un paradoxe formel. La chanson à danser est en fait au service d'un discours pathétique et probablement autobiographique sur la dépression. le désespoir. Curieusement, ce discours sur le désespoir et la dépression est ponctué par des falas, qui sonnent à la fois comme résignés et probablement ironiques. La deuxième partie de la pièce, Hans Care, rappelle par son chromatisme extrême un autre auteur italien que je n'ai pas cité jusqu'à présent, c'est Carlo Gesualdo, ce mystique et ce fou de musique. La pièce se résout par un accord, modulation en majeur, pour introduire en abîme le remède, c'est-à-dire la musique, baume du malade. Allons maintenant dans une taverne, lieu que Thomas Wilkes ne devait fréquenter que trop souvent, à ce que rapportent les témoignages. Sa dernière publication, 1608, s'intitule Heirs of Fantastic Spirits for Three Voices. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle en anglais les Freeman Songs, peut-être Three Man Songs. En tous les cas, ce sont des collections de chansons profanes, légères, qui rassemblent des canons, ou des, ce qu'on appelle les rounds, ou des cris de ville, par exemple, et qu'on retrouve dans d'autres collections contemporaines, comme celle, par exemple, de Ravenscroft. Dans ses chansons à trois voix, pour voix d'homme donc, Wills chante bien sûr la boisson, mais également le tabac, vous allez écouter une pièce sur le tabac de Trinidad, également les exploits de ses contemporains. On verra dans la dernière de ses citations l'hommage qu'il rend à William Kemp, le fou, le bouffon de la troupe de Shakespeare. Il fait également la satire de certains membres de la société intellectuelle et notamment des membres du Club de la Sirène, le fameux Club de la Mermaid qui rassemblait de beaux esprits et des parlementaires. La première pièce, Strike It Up Tabor, évoque donc la morisque, cette danse traditionnelle qui est, au fond, le souvenir ou le vestige d'une Angleterre heureuse, Merry Old England, celle que regrettent évidemment beaucoup de ces Anglais qui ont vu la réforme avec une forme de terreur, parfois, et en tous les cas, avec une sorte de regret du bon vieux temps. L'autre pièce, la suivante, que nous allons écouter, c'est une pièce qui fait l'éloge du tabac. Voilà, je jure que ce tabac, c'est du parfait Trinidad, par la messe même, il n'y a jamais de meilleure chose qu'ici, par la croix, le sang, ce tabac est très bon, il est très bon. La dernière pièce qui illustre ce propos sur Thomas Wilkes, c'est celle qui est consacrée dans le même volume de 1608 à un personnage connu de toute l'Angleterre, parce qu'il était d'une part comédien, mais également pour d'autres raisons. Il s'agit de William Kemp, qui est mort en 1603. Il avait été acteur dans la troupe de Lord Chamberlain, le Lord Chambellan, c'est-à-dire la troupe de Shakespeare, et c'était un excellent danseur, en même temps qu'un excellent improvisateur. Shakespeare, d'ailleurs, ne se privait pas de faire des remontrances à celui qui utilisait la scène plus à des fins personnelles que pour dire le texte de son auteur. Bref, le fait est que parmi ses exploits, il en a publié un qui s'intitule « Le voyage merveilleux de Londres à Norwich pendant 9 jours. En effet, William Kemp, accompagné de son flûtiste qui joue en même temps du tambourin, a dansé sur 190 kilomètres entre Londres et Norwich. Et cet exploit a fait évidemment le tour de l'Europe. Cette Maurice Dunn, cette morisque d'origine évidemment mauresque, était de toutes les processions et de toutes les fêtes de mai dans l'Angleterre d'autrefois, mais également de nos jours, où elle conserve une pratique assez régulière et où on continue à habiller le danseur avec des clochettes aux chevilles et souvent muni d'une écharpe ou d'un mouchoir. Voici donc cette évocation de Kemp qui s'en va danser, qui se donne beaucoup de mal avec son tambour puisqu'il prétend avoir dansé jusqu'en France et où il sautillait d'un pied agile, falla, falla. The poem it was a time for all, when can he dance alone? Since Robin Hood met Maria and little John are gone, the poem it was a time for all, when can he dance alone? He did play the part of the tale of four to dance, and a bien to France, for to dance and in to France. Le programme que nous présentons ici a été interprété par les Sorbonne Scholars que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger depuis leur création en 1998. L'histoire de ce groupe est un peu singulière également, puisqu'il est né spontanément d'un voyage d'études à Stratford, où j'emmenais mes étudiants pour faire de la recherche sur des sources premières, et où on m'a demandé d'enseigner quelques chansons. Au retour à la Sorbonne, eh bien, ces mêmes étudiants m'ont dit « Mais pourquoi ne chanterions-nous pas encore un peu ?» etc. Bon, l'affaire s'est développée. Et le groupe lui-même a beaucoup évolué depuis plus de 20 ans. Nous y pratiquons la musique de la Renaissance anglaise, mais pas seulement. Nous avons ouvert les portes à des personnes qui n'étaient pas des étudiants de mon séminaire et c'est devenu maintenant un groupe d'une quarantaine de personnes qui pratiquent les instruments anciens et qui chantent le répertoire de la Renaissance ou du premier baroque. Il se trouve que mes attributions comme enseignant de littérature élisabéthaine m'ont facilité énormément les choses et la Sorbonne a été d'une extrême générosité de ce point de vue-là, puisqu'elle nous a permis effectivement de nous développer, d'ouvrir les portes de la Sorbonne et de faire connaître cette musique souvent très peu connue. Celle de Wilkes, par exemple, dont j'ai parlé, est une musique relativement peu connue et connue depuis très peu de temps. Donc il y a évidemment une dimension de recherche, une dimension de mise en contexte des partitions que nous jouons ou chantons et de certains événements ou de certaines circonstances historiques qui ont été illustrés par des musiciens ou par certains événements musicaux. Nous continuons à travailler dans cet esprit-là, qui est à la fois un esprit de reconstitution, mais en même temps de contextualisation de ce matériau musical. Et nous recrutons toute personne qui s'intéresse à ce répertoire et veut pratiquer soit le chant, soit la pratique instrumentale, donc sur des instruments anciens. que vous avez pu voir. Vous avez pu voir des sacs-boutes, des cornets, des flûtes à bec, des viols de gambe, etc. Il est évident que Thomas Wilkes n'a probablement pas eu la chance d'avoir sous la main, surtout à Chichester, des formations instrumentales aussi nombreuses. Il se plaignit en permanence de la mauvaise qualité de ses musiciens et de ses chanteurs. Nous, nous avons la chance de pouvoir instrumenter des pièces qui ne l'ont peut-être pas été, encore que cette note de 1600 disant que ces madrigaux peuvent être interprétés par les voix ou par les viols montre bien qu'il avait l'esprit ouvert et que d'autre part, s'il a écrit pour la chapelle royale, ce qui est plus que probable, là, on disposait de moyens musicaux et instrumentaux beaucoup plus développés. Donc c'était le choix, c'était un choix d'interprétation, de donner à cette musique le plus d'ampleur possible, avec notamment, bien sûr, l'orgue, qui est la plupart du temps présent, mais également des formations instrumentales plus rares, celles de la alta cappella, avec les cornets et les sacs-boutes, et le basson, mais également des flûtes à bec et des viols de gambe. On peut remarquer que Thomas Wilkes ne s'est pas beaucoup intéressé, ou du moins il n'a pas beaucoup écrit ou publié pour les instruments, quelques pavanes de volontaires pour orgue et quelques fantaisies pour ensemble de viols. Autrement dit, ça n'est pas l'instrumentiste sur lequel il faut compter pour mettre au point un programme instrumental. Néanmoins, il était organiste, et manifestement connaissait parfaitement le fonctionnement d'un consort de viol. Pour ce qui est du répertoire, donc, nous avons évidemment mitigé dans le même concert des pièces qui n'auraient jamais pu être interprétées dans le même espace. Des chansons à trois voix pour le beuvry de taverne, mais en même temps des services à six voix pour la chapelle royale, vraisemblablement. Bref, le genre du concert est un genre qui est lui-même un petit peu bouleversant dans la mesure où il fait rapprocher des musiques qui n'ont jamais pu être interprétées dans le même espace. Cette formation donc, que j'ai l'honneur de diriger donne fréquemment des concerts, ou du moins donnait fréquemment des concerts avant l'épisode difficile que nous connaissons depuis 2 ans. Dans la mesure du possible et dans la mesure des autorisations légales, nous continuons notre exercice musical avec au moins une répétition hebdomadaire et nous donnons aussi régulièrement que possible des concerts publics, aussi bien à la Sorbonne qu'ailleurs. Le cas de Thomas Wilkes, par exemple, c'est le 3e concert consacré à Thomas Wilkes nous donnant en Sorbonne et ce même concert, dans sa version programme de musique sacrée, a été donné quelques jours plus tard dans la très belle chapelle Saint-Joseph des Carmes, avec une acoustique et un public tout à fait remarquable. Autrement dit, les scholars se déplacent, ils animent, ils illustrent aussi des colloques aux thèmes porteurs qui nous concernent, et malgré les difficultés du moment, nous avons bon espoir de mener à bien des projets. Nous avons en cours de préparation un double hommage à Josquin des Prés et Jean Mouton, grand maître et son disciple, qui sera donné en Sorbonne le 29 mars. Et nous avons par la suite, je l'espère, un projet sur Prétorius, qui lui-même, pour une raison d'anniversaire, est un auteur qui nous intéresse puisqu'il a écrit autant pour les voix que pour les instruments et là il y aura effectivement une débauche de musique instrumentale, je l'espère. Donc, malgré les circonstances, les scholars continuent de travailler assidûment, même si les effectifs sont un peu fluctuants parfois.